Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 15 janvier 2018, déjà milieu de mois. Et ce matin, un froid à nous transpercer les os, hein, quand même. Alors, le manteau est de mise, je peux vous le dire, parce que j'ai marché un peu ce matin. Mon nom est Claude Blas, en poste avec nos collaborateurs de toujours, en débutant tout d'abord par Franceline Nieuviard.
Comment allez-vous ce matin? Bonjour, oui, ça va bien.
Alors, vos sujets?
Mes sujets. Donc, le titre de l'article s'intitule « Vrai ou faux, on fait le tri ». Et puis, c'est à propos de la multitude d'infos santé contradictoires qui nous laissent perplexes. Et donc, ces 10 conseils d'Olivier Bernard, plus connu avec son surnom le pharmacien, qui a parlé de ça avec Linda Priestley, que j'ai trouvé cet article dans Le Bel Âge de janvier 2018. Et ensuite, il y aura deux articles pris dans l'itinéraire. Travailler trop tard avec écrit par Yannick Marcil, et puis un autre qui s'appelle Saisir sa chance, qui a été écrit par Franck Lambert, qui est un camelot, et je vous en parlerai plus en lisant mon texte.
D'accord. Beaucoup de matériel ce matin, c'est bien. Oui, et oui. On salue Roger.
Oui, bonjour Claude.
Comment vous allez?
Ah, un froid de canard.
Ah, et voilà, c'est ça. C'est ce qu'on dit, un froid de canard. Hein?
Pourquoi, oui, c'est ça.
Pourquoi on dit un froid
les
de canard?
Les oreilles vont nous tomber.
Moi, alors, au sujet ce matin.
J'ai dans l'actualité du mois de janvier deux textes que je veux vous lire. Et c'est des textes qui sont issus d'un dossier. Le dossier de ce mois-là qui s'appelle « Avoir 18 ans en 2008, les enfants de l'an 2000 ».
2018, ouais. Roger.
2018?
Oui. Oui, non, c'est pas ça. T'as dit 2008.
Ah oui?
Oui, parce qu'on rajeunit.
Ma dyslexie.
Vous faites reprendre ce matin.
Ah, mon Dieu.
Non, je trouvais qu'on
Quelle
était
souffrance.
Bien jeunes.
Merci de me reprendre, Francine. J'ai induit tout le monde en erreur. Bon, il y a deux sujets dont je vais traiter. Société, chacun pour soi. Et métro, boulot, dodo. Pas dodo. Métro, boulot, robot. Dans le monde du travail.
Oui. Merci, Roger. Et de mon côté, j'aurai aussi deux textes pris aussi dans l'actualité du mois de janvier. On parle de M. Vadeboncœur qui a écrit « Au rythme de la nouvelle année » et un autre article qui est intitulé « La forêt dans l'assiette ». Voilà pour l'actualité. De mon côté, on vous revient tout de suite avec Franceline. Alors, Franceline, on débute avec vous.
Oui, vrai ou faux, on fait le tri. Ouais. Alors, depuis l'arrivée d'Internet, avec ses milliers de sites, nous sommes plus que jamais bombardés de conseils santé. Comment faire alors? Comment alors se faire une idée entre le docteur machin chouette qui s'oppose au vaccin, l'étude sur les bienfaits du curcuma, l'expert affirmant que le bonheur se trouve dans la cure par la jus et la cousine Manon enthousiasmée par sa diète zéro gluten? Selon Olivier Bernard, pharmacien auteur du blog Le Pharmacien, qui vient de publier son troisième livre « La Bible des arguments qui n'ont pas d'allure », déjouer les affirmations douteuses et, entre guillemets, botter le derrière de ceux qui disent n'importe quoi, n'est pas mission impossible. Et ce, même si on n'est pas un pro des sciences, comment aiguiser nos antennes et démêler le vrai du faux? Alors, il y a 10 conseils. Le premier. On vérifie qui est l'agent informateur, qu'il s'agisse d'un article dans un journal, d'une nouvelle sur Facebook ou d'une entrevue à la télévision, on s'informe sur l'identité du communicateur. On se demande si cette personne possède une certaine crédibilité et détient les qualifications nécessaires pour se prononcer sur un tel sujet, recommande donc le pharmacien. Deuxième conseil, on ne se laisse pas impressionner. Les savants peuvent aussi se tromper. Nous sommes entourés d'experts, vrais ou autoproclamés, qui se prononcent à propos de différents sujets santé sur les ondes télévisuelles ou radiophoniques, sur Internet et dans les réseaux sociaux, dit notre scientifique invité. Sa principale recommandation, on tient compte des compétences de la personne sans toutefois supposer qu'elle a forcément raison à cause de sa réputation ou de son titre. Troisième conseil, on cherche un deuxième avis. Les affirmations d'une seule personne, peu importe son statut, ne devraient pas suffire à nous convaincre de leur véracité. Si cette personne ne précise pas que ses propos sont appuyés par un groupe, un organisme, une association ou autre, ou que ce qu'elle avance nous semble soit extravagant, soit contraire à nos croyances, on a lieu de douter et de rechercher un deuxième avis auprès d'un professionnel de la santé ou d'un proche ayant fait des études ou travaillé dans le domaine des sciences, dit-il. Quatrième conseil, on ne joue pas les moutons. Si tout le monde le fait, fais-le donc. Pas forcément. Les énoncés du genre « plus de 300 personnes ont témoigné que ça marche » ou « 65% des patients cancéreux ont utilisé la médecine douce » relèvent souvent d'une stratégie de marketing pour nous encourager à acheter un produit populaire. Or, la santé et la science ne sont pas des concours de popularité. Cinquième conseil, on déjoue les buzz du moment. On entend parler d'un aliment considéré tout d'un coup comme miraculeux ou au contraire responsable de toutes les maladies. Le gluten du jour au lendemain serait ainsi devenu la cause de l'obésité ou de l'autisme, alors qu'on en mange depuis très longtemps. S'il est vrai que le gluten est néfaste pour les personnes souffrant de la maladie cœliaque ou qui y sont sensibles, ce n'est pas le cas de tous, comme si un aliment ne pouvait être que bon ou mauvais pour tout le monde. Ce genre de discours devrait sonner l'alarme et nous inciter à nous informer davantage. Sixième conseil, on conteste l'argument de la nouveauté. On n'arrête pas le progrès. Le problème, c'est quand on s'en sert pour nous convaincre, par exemple, de l'efficacité supérieure d'une méthode de conditionnement physique sous prétexte qu'elle se base sur des études fraîches ou pour exploiter un sujet à la mode. Les nouvelles recherches entourant le microbiote, c'est bien, mais certains profitent de la vague pour, par exemple, vanter un produit qui nettoie l'intestin. Et on conteste aussi l'argument de ceux qui s'appuient sur la tradition. Si ça date de l'époque de nos ancêtres, ça doit être bon, vrai. Ici aussi, ça dépend. Par exemple, le danger mortel que peuvent représenter certaines pratiques anciennes, comme les saignées par exemple, a depuis longtemps été largement démontré. Huitième conseil, on prend les « c'est prouvé » avec un grain de sel. En fait, prouver quelque chose en science nécessite de très nombreuses études. Mieux vaut alors se fier davantage aux groupes d'études qu'aux études isolées. Neuvième conseil, on ne suit pas toutes les conversations sur Internet. À force d'essayer de trouver leur juste à travers les propos de tout un chacun sur les réseaux sociaux, on finit par ne plus savoir à quel saint se vouer. Mieux vaut s'en tenir à un usage plus modéré, nous prescrit le pharmacien. Dixième conseil, on cherche ailleurs. On veut forger sa propre opinion et vérifier une info ? Les sites gouvernementaux ou ceux d'associations professionnelles sont des sources plus fiables. Aux nombreuses personnes qui me demandent par exemple si elles devraient ou non se faire vacciner contre la grippe, je conseille de consulter le site du gouvernement. L'info est transmise de façon monotone, j'en conviens, mais au moins elle a été vérifiée et contre-vérifiée. J'encourage à lire au moins les résumés, puis au besoin de compléter ces recherches par d'autres sources, disons, moins ennuyeuses. Alors, quelques astuces en rafale. Voici quelques tactiques des conteurs de menterie qui devraient nous mettre la puce à l'oreille. Le premier, déformer les propos d'un autre. Citer hors contexte. Invoquer une cause unique à tous nos mots. Établir des comparaisons tirées par les cheveux. Utiliser des mots flous ou des expressions nébuleuses. Se baser sur son expérience et ses impressions personnelles pour prouver ce qu'on avance. Grogner contre la science sous prétexte qu'elle sait tout. Et c'est vrai, elle est d'abord et avant tout une démarche qui vise à tester et à vérifier nos idées avant de dire n'importe quoi, conclut le pharmacien. Donc voilà, c'était cet article recueilli par, écrit par Linda Priestley dans la revue du Bel Âge de janvier 2018 et qui donne ses conseils dits par le pharmacien.
Très bon article, voilà. Sur le temps passant. Ouais, on est inondé d'informations,
absolument, il faut
dire.
Absolument, absolument.
Alors, il faut faire attention, il faut s'informer davantage. C'est le truc.
Voilà.
En fait. Merci beaucoup, Franceline. Alors, du côté de Roger, premier article.
Oui, alors, premier article tiré toujours de l'actualité dans le dossier consacré les enfants qui auront 18 ans en 2018. Ils ne sont plus des enfants, évidemment, à ce moment-là. C'est les enfants de l'an 2000 qui ont 18 ans en 2018. Je ne me suis pas trompé dans mes chiffres, François.
Non, non, c'est bien, Roger, c'est bien.
Je vous voyais calculer tantôt, là.
À plusieurs sujets sont abordés dans le dossier, la politique, la famille... Et le couple, la techno pour sauver le monde, la santé, la consommation aujourd'hui. Je vous lis deux de ces textes-là. Le premier est rédigé par Jean-Philippe Cipriani. Et le sujet, c'est la société, et le titre qu'il donne à son texte, c'est « Chacun pour soi ». Dans son livre « Trees on Mars », l'essayiste canadien Niedzwiecki raconte une rencontre avec des jeunes de la génération Y à Toronto à qui il a demandé de décrire leur vision de l'avenir. Optimiste, il s'attendait à une litanie de possibles et de science-fiction. Les réponses l'ont laissé plutôt interdit. Mariage, enfant, avoir un bon emploi et aimer ce que je fais. Écrit une jeune diplômée en théâtre. La stabilité avant tout, une carrière stable, dit un diplômé de relations publiques. Un emploi stable qui me rapporte suffisamment d'argent pour voyager, puis pour avoir des enfants, tente un autre. Ces gens ne veulent-ils pas perturber quoi que ce soit, se demande Niedzwiecki. Selon lui, une imagination asphyxiée par la pensée individualiste pousse ces jeunes à projeter des rêves d'un conventionnel consommé, épousant les contours des attentes sociales les plus ordinaires. La génération suivante pourra-t-elle rêver mieux? La question taraude aussi Mathieu Bellil, qui a publié « Bienvenue au pays de la vie ordinaire », un essai où il se penche sur l'affection des Québécois pour l'habitude et le bien-être matériel et le peu d'intérêt pour une vie intellectuelle qui transcende le quotidien. Il enseigne au collégial où ses étudiants sont nés au tournant du siècle. « J'ai l'impression que la génération qui pousse est plus conservatrice », dit-il. « Elle a connu un monde où on ne cesse de marteler les mots « changement »,« mobilité »,« accélération » et par quête d'équilibre, ces jeunes sont portés à se rabattre sur les quelques éléments fondamentaux qui leur permettront d'assurer leur traversée, une bonne relation, un bon emploi, de bons amis. Ces étudiants s'identifient aisément à leur famille, leur école ou leur orientation sexuelle, mais très rarement à une communauté politique. La faute, selon lui, à une sectorisation des discours, où chacun lutte pour ses petites causes jusqu'à en être obsédé sans projet d'ensemble. C'est un recul du collectif, croit-il. Tout ce qui a fédéré dans les dernières années au Québec, c'est l'austérité ou des revendications libertaires. On se réfère pour un idéal qui nous mène à nous défédérer. C'est l'idéal de l'individu qui s'émancipe, qui choisit ses affiliations et qui, idéalement, choisirait de payer ou pas ses impôts. Et le seul autre discours qui règne, c'est celui de la revendication de droits individuels pour des groupes très pointus. Les quelques révoltés, dit-il, prendront encore la rue pour protester. Les moins politisés se replieront simplement en faisant leurs petites affaires, avec le moins de contact possible avec l'État, parce qu'ils ont intégré l'idée qu'on ne peut compter que sur soi. Pour l'essayiste Aurélie Langteau, la génération Z est en présence depuis son enfance d'un discours de discrédit des institutions. Moi-même, né en 1992, mes premiers souvenirs, c'est Lucien Bouchard sur le déficit zéro, puis la réingénierie de l'État sous Jean Charest. La crise économique de 2012 et la grève étudiante de 2000... La crise, ben encore mes chiffres. La crise économique de 2008 et la grève étudiante de 2012. C'est une escalade constante du discours selon lequel l'État est une machine à dégraisser qui ne sert à rien et dont les fonctionnaires sont, évidemment, tous paresseux. Dans le sondage publié dans l'actualité le mois dernier, les 18-34 ans plaçaient la famille et leur employeur comme les institutions les plus importantes à leurs yeux. Les mots du réalisateur Xavier Dolan étaient révélateurs dans son entrevue à l'actualité publiée en octobre. « J'ai de la difficulté à croire au groupe, aux collectivités, à la société. Moi, je crois en l'individu et en l'humain. » Le Parlement, la Constitution, les chartes des droits, les tribunaux, les partis politiques, les médias ou les syndicats résonnent-ils avec autant de pertinence? La génération qui cogne aux portes des urnes pourra-t-elle devenir celle des citoyens, de citoyens exigeants, qui demandent des comptes à leur État si elles voient les institutions comme des anachronismes? C'est difficile de mesurer cet effet maintenant, estime Geneviève Nouten, professeure de sciences politiques à l'Université du Québec à Chicoutimi, mais il y a le risque d'une crise de confiance envers les institutions qui permettent d'améliorer la vie quotidienne des gens. Les 15-24 ans trouvent des emplois précaires, sont moins syndiqués et profitent aussi deux fois moins de l'assurance-emploi qu'il y a 40 ans. Ils constatent que le privé est bien installé en santé, autant de signaux pour l'individu qu'il doit davantage compter sur lui-même. L'autre phénomène, c'est qu'un petit groupe a les moyens financiers de se créer un monde parallèle avec ses propres écoles, son propre système de santé, son propre système de protection. Si on ne partage plus le même monde, les institutions perdent de leur pertinence aux yeux des gens qui devraient les soutenir, ajoute Geneviève Newton. L'espoir, selon Aurélie Langteau, c'est que les aides viennent s'ajouter à la génération du millénaire pour occuper un poids électoral presque aussi important que celui des baby-boomers. Puisqu'ils commencent à investir les espaces démocratiques, peut-être que ça contribuera à ce qu'ils voient les institutions comme quelque chose de moins vieux jeu. Mais pour l'instant, selon lui, c'est Jean-Philippe Cipriani, c'est chacun pour soi dans la société.
Chacun pour soi, mais il y a quand même un passage assez intéressant dans l'article de Xavier Dolan qui dit que oui. Il croit aux humains.
Oui, il croit aux humains, mais... Ah. Oublier un peu sur lui-même.
Oui, effectivement, c'est vrai. Mais il faut croire aux humains, quand même. C'est ce que je voulais dire. Alors, on s'en va à la pause musicale et tout de suite après, je vous reviens avec un article tiré de l'actualité de Alain Bas-de-Boncœur.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
66 ans et toujours aussi intéressante à écouter cette pièce, bien sûr, M. Brassens, La mauvaise réputation.
Ah, à l'intérieur du studio, j'avais le cœur qui chantait aussi. Hein?
Ah oui.
Alors, très intéressant, merci. Alors, l'article que j'ai retrouvé dans l'actualité du médecin Alain Bas-de-Boncœur qui se titre « Au rythme de la nouvelle année ». Et c'est un cas vécu, alors je vous lis, voici ce qui suit. C'est souvent avec angoisse que les patients acceptent la cardioversion. Ce geste médical est très sûr, mais frappe l'imagination. Il s'agit tout de même d'administrer un choc électrique intense à un cœur emballé par l'arythmie afin de le ramener à la normale. Quand j'en discute avec mon patient, Jacques, il m'écoute avec inquiétude. Voilà des jours que son cœur bat la chamade. Son pouls irrégulier montant parfois jusqu'à 160. Comme les médicaments n'ont aucun effet, le mieux est de donner le choc, c'est-à-dire d'arrêter l'organe vital une fraction de seconde. Et l'homme de dire qu'est-ce qui va se passer? Le but, c'est de suspendre l'arythmie. Ensuite, le cœur reprend son travail habituel. Et l'homme dit s'il ne repart pas, il est quand même presque à la retraite. Le médecin répond, il va battre. N'importe laquelle de ces milliards de cellules peut le relancer. Me semble que j'essaierai plutôt un petit verre de rouge, dit-il. Dans votre cas, les médicaments ne fonctionnaient pas. alors on a juste à le laisser aller. À 160 à la minute, vous allez recevoir une méchante contravention. Il sourit et se détend un peu. Il dit, « Mon frère, il est mort d'un AVC. Vous prenez un anticoagulant, vous êtes bien protégé. On vous endort une petite minute. Après, l'équipe, qu'est-ce qu'ils font? » L'homme de 72 ans jette un coup d'œil à sa femme. En cette fin d'après-midi du 31 décembre, la première grosse bordée de neige d'un hiver tardif tombe sur Montréal et les urgences sont bien tranquilles. « On se revoit l'an prochain, ma chérie. » Ou de l'autre côté du tunnel, dit-il. On dit pas des affaires de même, sa femme répond. Tandis que je gratifie d'un sourire à la femme tracassée, le préposé saisit la civière et roule mon patient vers la petite salle où nous réalisons les cardioversions. Pendant que l'infirmière branche le défibrillateur, l'anesthésiste sort le propofol, sérum de vérité qui désimbibe avant d'endormir. L'inhalothérapeute règle la tubulure d'oxygène. « Vous voulez voyager gratis, dit-il? « OK. Ouais, en Gaspésie. Je viens de percer. » Alors, en route pour percer, vous allez arriver avant la nouvelle année. Je fais un signe de la tête à l'anesthésiste qui injecte le médicament. « Allez-y, monsieur, comptez de 20 à 0 et faites-le lentement. » Alors, il débute le décompte 20, 19, 18 et finit par 11, 3, 4 et 0. Mais quand les yeux de mon patient deviennent fixes, ses deux bras s'élèvent, puis il s'agite en des gestes répétitifs et de grande amplitude, comme s'il voulait s'envoler. Et sur ses lèvres apparaît un mouvement de succion récurrent. Tandis qu'il gémit faiblement, j'interroge du regard l'anesthésiste, aussi étonné que moi. Ses contractions, on dirait des myoclonies. Les lèvres, ce n'est pas un réflexe primitif du tronc cérébral. Pour la cardioversion, il n'y a presque jamais de complications, mais là, je songe à un AVC ou encore une crise d'épilepsie. Donc, ça ne va pas très bien. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» me dis-je. Les mouvements deviennent plus saccadés et les jambes se tortillent. S'il fallait que ça tourne mal, j'en ai des sueurs froides. Mais le cœur s'est emballé à plus de 180, je dois continuer. Alors, nous ajoutons d'autres propofols. Propofol, je reprends. Et graduellement, les gesticulations ralentissent, puis cessent tout à fait. Les bras retombent et la voix se tait. Le patient se met même à ronfler, inconscient. Je charge l'appareil qui émet son alarme habituelle. Alors je dis « clear ». J'appuie sur le bouton. Choc donné, le corps saute violemment. Je jette un coup d'œil au moniteur où le tracé tarde à s'organiser. Un rythme normal reprend enfin le dessus. Ne reste plus qu'à espérer le réveil. Au bout de 2 minutes, que m'en paraissent 10, le patient ouvre les yeux. Alors il dit, « Je suis arrivé ?»« Médecin, je réponds, où ça ?»« À Percé ?»« Presque. »« C'est pas le jour de l'an ?» Tout le monde sourit, l'atmosphère s'allège. L'arythmie est partie. J'ai rien senti. C'était ça le but, monsieur. Soulagé, je sors de la salle pour remplir mon dossier. Plus tard, je retourne examiner Jacques afin de lui expliquer les étranges mouvements constatés. Je vais en parler au neurologue et... quel genre de geste ai-je fait? Comme une convulsion avec les bras et avec les lèvres. Comme si vous, à ce moment, le rire sonore de sa femme coupe mais tous mes mots. Appelez-moi l'anesthésiste vite. Après 15 secondes, mon téléphone sonne. Tu peux imaginer le patient? Il ne va pas bien. Devine, c'est quoi son métier? « Ben, je ne sais pas. Accordéoniste. »« Et c'est quoi l'affaire? » »« Il nous jouait les rigodons de sa Gaspésie natale. » Voilà l'article. Alors, assez amusant, mais en même temps, ça a été quand même un petit temps assez mal, mais le médecin s'en est bien tiré avec le patient. Alors, voilà. On vous revient dans quelques instants pour des petites brèves. À Alors, Franceline, une petite brève pour
oui,
nous.
Oui, alors une petite brève qui va dans le, à la suite de l'article que j'ai lu, on dirait, ouais. Parce que c'est cancer et microbiote. Au cours de la dernière décennie, le microbiote, autrefois appelé flore intestinale, n'a cessé d'attirer l'attention. Récemment, les scientifiques se sont intéressés à l'impact des traitements du cancer sur sa qualité. La chimiothérapie, la radiothérapie et la prise d'antibiotiques affectent cette flore intestinale de façon défavorable, diminuant les bactéries bénéfiques et augmentant les nocives. Les patients éprouvent alors plusieurs problèmes gastro-intestinaux. Heureusement, une fois les traitements terminés, le microbiote aurait la capacité de se régénérer. Ce dernier jouerait également un rôle dans la réponse au traitement des traitements. Des études prometteuses tendent à démontrer qu'il pourrait multiplier son efficacité. En attendant d'en apprendre davantage au cours des prochaines années, on veille déjà à mettre au menu des grains entiers et des produits fermentés pour bien entretenir notre microbiote.
Quand même, assez intéressant. Roger, on nous parle de stylo.
Oui, un stylo, mais petit stylo deviendra BANC. En France, le géant Bic se lance dans le mobilier de jardin fait de stylos recyclés. La société recueille les stylos usagés que les consommateurs déposent dans des bacs prévus à cet effet, les broie en microbilles, puis envoie celles-ci à une entreprise qui les transforme en planches, matériaux de base pour la fabrication de meubles. Il faut 4800 stylos pour produire un banc, 16300 pour une table. Bic vend 140 millions de stylos chaque année en France. Évidemment, il y en a qui sont usagés.
Mais tant qu'à les laisser usagés. Il faut bien s'en servir.
Hein? C'est ça, on a fait des beaux meubles. Pas laid, hein?
Ça fait sûrement de beaux meubles. On a une photo? Oui, oui. Hein, quand même. Vous regarderez ça dans l'actualité. Franceline.
Oui, alors, 1 million de dollars. Ce chiffre, qui nous apparaissait jadis comme une vraie fortune, correspond aujourd'hui à ce qu'un Américain devrait avoir accumulé pour s'assurer une retraite convenable. En plus, on ne parle pas ici du pécule d'un couple, mais bien d'une seule personne. Et encore, faut-il savoir combien de temps durera la retraite en question? Si on habite à Hawaï, ce million de dollars sera dépensé en 11 ans seulement, alors qu'au Costa Rica, il permet de tenir au moins 47 ans et même 49 ans au Panama. En tenant compte des avantages offerts par les programmes sociaux et d'assurance maladie au Québec, il fait donc plutôt bon vivre chez nous, malgré les rigueurs du climat.
Merci beaucoup, voilà. Franceline. Alors, on se dirige tout doucement vers la deuxième partie de cette émission. Alors, on vous retrouve dans quelques instants.
Son indifférence m'arrache la panse, puis je pense plus rien qu'à mourir. Mon rôle dans la vie n'est pas encore défini, pourtant je m'efforce pour qu'il soit accompli. Je sais que tout déjà commence, mais Seigneur, j'ai pas envie. Seigneur, Seigneur, je sais, tu me l'avais dit. Respecte ton prochain, réfléchis à demain, car la patience t'apportera de belles récompenses. Travaille avec entrain pour soulager la faim de la femme qui t'aime, il en a de besoin. Il a besoin d'un homme fidèle qui sait en prendre soin. Lucifer,
Lucifer, t'as profité de ma faiblesse pour me faire visiter l'enfer. Mais je t'en veux pas, c'est moi qui a pensé que je pourrais être chum avec toi. Mais je m'ai bien fait avoir, mon chien Lucifer. Sexe, alcool, les bars et la drogue, c'est le genre d'illusion que je consomme. Si on est ce que l'on mange, Seigneur, tu sais bien trop que je serai jamais un ange. Mais je veux changer de branche, filtrer mon passé et sortir mes vidanges. Mais j'aimerais prendre le temps de faire la paix avec quelques souffrances. Oui, j'aimerais prendre le temps de faire la paix avec quelques souffrances.
Pièce qui a déjà 22 ans, en fait presque 23 ans, 1995, Kevin Parent, extrait de son premier album, Pigeon d'argile, c'était la pièce Seigneur.
Merci beaucoup, excellent album, soit dit en passant. Et Franceline vient tout juste de découvrir Kevin Parent.
Oui, absolument.
C'est bien.
J'étais pourtant au Québec à ce moment-là déjà.
Ah, mais c'est pas grave, on découvre à tous les jours. Travailler trop tard, c'est-tu comme... Est-ce que c'est comme j'ai fait hier soir?
Ah non, c'est non. Pas, non, on finit pas à 23 heures, c'est plutôt trop tard en âge. C'est-à-dire, c'est une réflexion de Yannick Marcil à
d'accord.
propos du fait que le nombre de personnes âgées, entre guillemets, de 65 ans et plus, uh-huh. Continue à travailler.
Ah.
Alors, il écrit ceci. Le rêve américain, qui est aussi le nôtre, n'est pas au fond de s'enrichir à outrance. C'est plutôt celui de la classe moyenne, être en mesure de gagner dignement sa vie afin de pouvoir fonder une famille et vivre heureux. C'est aussi de pouvoir, après une vie de dur labeur, passer le flambeau aux plus jeunes et prendre une retraite méritée, sans craindre la précarité matérielle. Au fond, nous chérissons à peu près tous ce rêve d'une vie paisible à l'abri de l'indigence. Le problème, c'est qu'une proportion de plus en plus importante d'entre nous a abandonné ce rêve pour toujours. Jusqu'au début des années 2000, les personnes âgées de 65 ans et plus ne constituaient bon an mal an qu'environ 1% de la main-d'œuvre au Québec. Depuis 2002, leur part a constamment augmenté pour atteindre 3,4% l'an dernier, une croissance énorme, près de 3,5 fois de plus en à peine 15 ans. Il y a donc de plus en plus de personnes, entre guillemets, âgées, qui continuent à travailler après l'âge officiel de la retraite, ou pire, qui y retournent. J'ai utilisé les guillemets parce que la trace du temps sur notre corps après 65 ans n'est plus la même aujourd'hui qu'il y a 50 ans. On vit certes plus vieux, mais on vit en santé plus longtemps, également grâce au progrès de la médecine, mais aussi parce que le travail de la très vaste majorité d'entre nous est beaucoup moins pénible qu'il ne l'était. On s'use moins à l'ouvrage, donc, et collectivement, nous nous sommes enrichis au cours des dernières décennies. Pourquoi alors ne pas profiter de la retraite et continuer à travailler? Parce qu'on a la possibilité de le faire, parce qu'on désire le faire ou parce qu'on y est contraint. De vieillir en meilleure santé offre tout bêtement la possibilité de travailler plus tard dans la vie. De déterminer à partir de quel moment est-ce trop tard, là réside la véritable question. On pourrait présumer que nombre de ces hommes et de ces femmes travaillent après 65 ans par choix. Par amour du travail, pour conserver son réseau social ou pour se désennuyer, comme on dit, nous avons tous dans notre entourage des gens dans cette situation, donc qui choisissent de travailler après 65 ans. En revanche, on peut travailler plus tard dans la vie parce qu'on y est contraint. Épargnes insuffisantes, couverture du régime de retraite insuffisante, mauvais coup du destin, les raisons sont nombreuses. Malheureusement, on ne connaît pas la proportion de ces personnes obligées de travailler par rapport à celles qui en font le choix. Mais puisque la part des personnes âgées présentes sur le marché du travail a augmenté à ce point rapidement, on peut poser raisonnablement l'hypothèse qu'une grande partie d'entre elles y sont contraintes. Sinon, pourquoi soudainement, à compter de 2002, elles commencent à être de plus en plus nombreuses? Leur capacité à travailler après 65 ans n'était pas bien différente dans les années 1980 ou 90 qu'aujourd'hui. Pourquoi désireraient-elles davantage, depuis 15 ans, rester ou retourner au travail? Il y a donc fort à parier pour de nombreuses personnes que de nombreuses personnes soient contraintes à le faire. C'est tout de même incroyable, après ces décennies où on nous a rabâché l'idéal Liberté 55 de prospérité pour l'ensemble de la collectivité et d'espoir d'une vie meilleure pour les travailleuses et les travailleurs, nous vivons depuis peu dans une époque où les plus âgés d'entre nous doivent travailler pour répondre à leurs besoins matériels. S'il existe un principe fondamental de la solidarité sociale, ce devrait être celui de prendre soin des femmes et des hommes qui ont travaillé fort toute leur vie pour assurer la prospérité collective et qui méritent de filer paisiblement leurs vieux jours sans soucis matériels. Voilà donc la réflexion de Yannick Marcille, écrite dans l'itinéraire du 1er janvier 2018.
Merci beaucoup, Franceline. On va revenir dans quelques instants avec un article sur la forêt dans l'assiette. Alors, un article que j'ai retiré de l'actualité, en fait, du mois de janvier, qui s'intitule « La forêt dans l'assiette », et écoutez bien ceci. Quand il était enfant, François Brouillard allait se balader avec ses grands-parents et ramenait à la maison un butin de raisins sauvages, de cerises à grappes, de bleuets et de fraises des champs. Dans sa famille, la cueillette se pratique depuis 4 générations et s'inspire du savoir des peuples autochtones. Les Amérindiens, dit-il, ont montré aux colons de quoi ils se nourrissaient. Leur pain, d'ailleurs, par exemple, était fait de farine de racines de quenouille, qui est riche en amidon. Après quelques essais et erreurs, et parce qu'ils n'étaient pas pleinement satisfaits de la saveur de leur pain de quenouille, lui et sa conjointe Nancy Hinton ont finalement choisi de miser sur l'épi de cette plante des marécages qui donne au pain un petit goût de maïs. Cuisinière depuis une 20aine d'années, Nancy Hinton a fait la connaissance de François Brouillard alors qu'elle travaillait aux côtés d'Anne Desjardins à l'eau à la bouche à Sainte-Adèle. Ensemble, sur leur terre de Saint-Roch-de-la-Chigan, ils gèrent aujourd'hui une table forestière en plus d'une entreprise consacrée à la cueillette durable et à la transformation de plantes sauvages comestibles. Les jardins sauvages. Au fil du temps, ils ont amélioré leurs recettes et choisi les plantes pour leur caractère délicieux plutôt que pour leurs vertus médicinales. L'oxalis, connu sous le nom de faux trèfle à 4 feuilles, est excellente en salade, avec son goût acidulé. Leur pain poupre aussi, encore meilleur lorsqu'il pousse en zone ombragée. Le pissenlit, lui, est meilleur s'il est récolté tôt le matin, entre 6h et 9h, avant que la sève monte. C'est très important. Le processus de photosynthèse déclenché par la lumière du jour, et ça c'est expliqué par François Bouillard, accentue la sensation amère et rend la plante encore plus coriace. Largement répandue dans les champs, la moutarde sauvage rappelle, quant à elle, le côté piquant de la roquette et du rapini. Elle est devenue si populaire que François Bouillard la cultive en serre depuis quelques années. J'aime mieux me présenter comme jardinier forestier que comme cueilleur. Ce n'est pas tout de prendre à la nature. Il faut s'assurer de faire une bonne gestion des ressources. L'année suivante, je ne veux pas seulement que la ressource se maintienne. Je veux qu'elle se développe, qu'elle s'étende. Conseil pour apprentis cueilleurs maintenant. Nancy Hinton et François Bouillard incitent les gens à découvrir la flore qui les entoure, mais avec prudence, pour leur bien-être et celui de l'environnement. Voici leurs recommandations. Évitez de vous éparpiller. Il vaut mieux apprendre à connaître un bout de terrain et à y revenir régulièrement que de courir plein d'endroits à la recherche de la nouvelle plante tendance. Deuxième conseil, faites attention aux modes. Plusieurs plantes sauvages, le thé du Labrador par exemple, souffrent de l'engouement soudain que lui portent les consommateurs. Renseignez-vous aussi, troisième conseil, sur la meilleure façon de cuisiner votre récolte. Quatrième conseil, introduisez graduellement chaque nouvelle espèce dans votre alimentation. Le fait qu'une plante soit comestible n'exclut pas les réactions allergiques et d'autres intolérances. En 1935, 4 ans après avoir fondé le Jardin botanique de Montréal, le frère Marie-Victorin publie la première édition de la flore laurentienne. L'œuvre est magistrale, 917 pages, 22 cartes et 2800 dessins. Fruit d'une trentaine d'années de travail, ce livre répertorie des dizaines de milliers de spécimens et couvre un immense territoire du Bas-Saint-Laurent à l'Abitibi, de l'Outaouais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La flore laurentienne présente les espèces par leur nom latin et vermaculaire, précise leur habitat et leur répartition, mais Marie-Victorin, il a aussi inclus beaucoup de commentaires ethnologiques et écologiques qui ont largement contribué à son succès populaire. Plus de 80 ans après sa parution, ce volume, qui en est à sa troisième édition, demeure une référence incontournable en botanique. On peut également en consulter une version abrégée en ligne, en fait, au site Internet suivant, florelaurentienne.com. Alors voilà l'article, on dit la forêt dans l'assiette. Alors, je me rappelle que ma grand-mère, on cueillait régulièrement du pissenlit.
Absolument.
Et c'était très...
Pas
votre
grand-mère, j'en mange aussi tous les ans.
On peut en faire du vin, paraît-il.
Et
aussi.
Absolument aussi. Vous c'est avec les fleurs, les vins de pissenlit, c'est
et
les
voilà.
Fleurs.
Alors voilà. On vous revient dans quelques instants avec un autre article. Alors, Franceline, on poursuit.
Oui, alors, mon article s'appelle « Saisir sa chance ». Et c'est une chronique qui a été écrite par Franck Lambert, qui est un camelot du journal L'Itinéraire. Mm-hmm. C'est le camelot qui m'a vendu cet exemplaire, là, de janvier 2018. Et quand je l'ai acheté, il m'a signifié qu'il avait écrit un article dans le journal pour témoigner de sa démarche de retour au travail après de graves difficultés. Et j'ai eu envie de le lire, pour ça permet peut-être d'avoir aussi un autre regard sur les gens qu'on rencontre comme ça, ouais, et qui vont l'itinéraire. Alors, saisir sa chance. On critique souvent les assistés sociaux. Certains préjugés circulent les concernant. Je les entends souvent, ces commentaires, et je suis fatiguée d'entendre ces mêmes stéréotypes négatifs. Les gens devraient revoir leur conception sur le sujet. Je reçois moi-même des prestations gouvernementales depuis des années, dit Franck Lambert. Ce n'est pas nécessairement parce que je ne veux pas travailler. J'ai accepté ma situation et j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Mais voilà qu'un changement s'est produit dernièrement et c'est très positif dans mon cas. J'ai déjà occupé des emplois depuis ma sortie de l'école secondaire. Cela m'a amené aussi à des périodes de chômage. Et je suis sur l'aide sociale depuis 1997. J'ai occupé des emplois temporaires depuis ce temps. J'ai travaillé, par exemple, pour le recensement fédéral de 2001, en sachant que c'était un emploi contractuel. Je suis retournée après sur l'aide sociale par la suite. Je réussis à trouver des moyens afin d'arriver à payer mes comptes. Et cela, malgré la maigreur des prestations gouvernementales que je reçois à chaque mois. Je déposais à l'occasion mon CV dans certaines entreprises, mais en vain. J'ai habité sur la rue Beaubien entre 2001 et 2008. J'avais postulé dans un supermarché près de chez moi. J'avais l'objectif de combler le vide dans mon CV concernant mon inactivité sur le marché du travail. Le responsable n'osait pas me prendre sous prétexte que j'étais trop qualifiée pour l'emploi. Il craignait que je quitte rapidement afin de trouver mieux. Il avait sûrement raison sur ce point. Je postulais pour un poste de commis de plancher. Je ne dois pas oublier que j'ai aussi un diplôme collégial en poche depuis 2001. Je voulais pourtant travailler sans avoir trop d'attentes sur le sujet. Cela m'a amené à me décourager de revenir sur le marché du travail. J'ai continué mon chemin sans espérer d'obtenir un emploi de jour. Ce qui m'a poussé à tenter de vendre le journal de rue. C'était en août 2009 que j'ai commencé à le vendre. Je pouvais ainsi avoir un supplément de revenus afin de manger et de payer mes comptes. Cela me permet de sortir de chez moi et de tenter de rencontrer des gens. Je me devais d'essayer quelque chose au lieu de ne rien faire et de me tourner les pouces. C'est dans cette optique que j'essaye, malgré certaines périodes de morosité dans ma vie, de garder la tête hors de l'eau. J'ai établi une certaine clientèle fidèle. Je peux tenter de développer certaines aptitudes malgré mes incertitudes dans ma vie. Il y a ces clients qui reviennent me voir et je réussis à obtenir un bon contact. Mais la vie est ainsi faite. Elle m'a réservé une belle surprise. C'est en vendant sur l'avenue Mont-Royal qu'un de mes clients m'a proposé une opportunité. Il m'a donné sa carte d'affaires afin que je lui envoie mon curriculum vitae par courriel. Et il l'a ainsi donné à un de ses employés pour un poste dans une compagnie de sondage. Je suis donc allée voir son superviseur et vous savez quelle surprise j'ai eue ? On m'a donné la chance de travailler. Et j'ai commencé à travailler le 24 octobre 2017. C'est ainsi que les circonstances m'ont amené à rencontrer des gens et ces mêmes personnes m'ont vu fonctionner et ont observé que j'ai peut-être du potentiel. Certes, ce client, celui qui m'a tendu sa carte d'affaires, m'a donné la chance et la possibilité de travailler. C'est certain que c'est à moi de faire mes preuves et d'oser faire les choses autrement. Et je saisis ma chance au vol. Et j'y tiens fortement. Je ne sais pas encore combien de temps je vais travailler dans le sondage téléphonique, mais au moins cela me donne espoir que je puisse revenir sur le marché du travail. Je vais pouvoir enfin me considérer comme une personne active dans la société. Je respire mieux enfin. Je remercie fortement cet homme de m'avoir donné l'opportunité de reprendre ma place dans la société. Et donc, écrit Franck Lambert, Camelot à l'itinéraire.
Vous voyez comment c'est important, c'est une belle histoire.
Oui, c'est une belle histoire.
C'est important. Oui. Chaque jour, vous rencontrez des gens différents.
Absolument.
Vous ne savez jamais sur qui tomber.
Ben oui.
C'est vrai. Tout à fait. Alors, on vous revient dans quelques instants avec Roger. Alors, Roger, on parle du métro?
Oui, du métro, du boulot surtout.
Oui.
Et des robots.
Et des robots.
C'est l'avenir.
Ah,
parce
oui.
que c'est dans le dossier de l'actualité du mois de février, mm-hmm. consacré aux jeunes qui vont avoir 20 ans, 18 ans en 2018.
Uh-huh.
Et là, je m'intéresse au sujet du travail. Et c'est Naël Chiab qui signe ce texte qu'il a intitulé « Métro, boulot, robot ». Alors, il divise son texte en différentes rubriques. Première rubrique, recherchons travailleurs. La bonne nouvelle. La prochaine génération de travailleurs sera une main-d'œuvre convoitée. Autour de 2025, les derniers baby-boomers auront pris leur retraite et les Québécois nés à la fin des années 90 et au début des années 2000, ainsi que les immigrants, ne seront pas assez nombreux pour compenser ces départs. Chaque fois que 10 personnes quitteront le marché du travail, seulement 8 seront disponibles pour les remplacer. Mauvaise nouvelle au sujet de cette rubrique « Recherchons travailleurs ». Les prochaines générations travailleront plus longtemps que les précédentes et contribueront davantage pour assurer les beaux jours de ceux qui sont déjà à la retraite. En 2030, pour chaque personne âgée de 65 ans ou plus, seulement 2 travailleurs cotiseront à la Régie des rentes du Québec, alors qu'ils étaient 7 à le faire en 1970. Donc, on peut prévoir soit que le temps de travail se prolonge, ouais, soit qu'on augmente les cotisations à la régie des rentes. Ouais, mm-hmm. C'est ça. Autre rubrique maintenant, révolution industrielle à l'horizon. La bonne nouvelle. Ce n'est pas parce que les robots et l'intelligence artificielle s'apprêtent à envahir le marché de l'emploi et à le transformer radicalement que les humains finiront au chômage, prédisent certains experts. Nombre d'avancées technologiques augmenteront la productivité des travailleurs plutôt que d'éliminer leurs postes. Si on se fie aux expériences passées, des emplois ont été perdus à cause de nouvelles technologies, mais d'autres ont aussi été créés. Alors, il donne l'exemple de l'arrivée d'Internet. Qui aurait cru il y a 20 ans qu'on pourrait un jour gagner sa vie en publiant des vidéos sur YouTube? Évidemment, c'est peut-être pas pour tout le monde. La mauvaise nouvelle au sujet de cette révolution industrielle qui est à l'horizon, personne ne sait vraiment quels nouveaux emplois seront issus de l'automatisation des tâches et de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Grâce à l'invention du moteur, par exemple, un tracteur a remplacé des centaines d'ouvriers agricoles, mais il faut des centaines de personnes pour concevoir, fabriquer et entretenir ces machines. Pour les plus pessimistes des spécialistes, il existe un risque que ce transfert de main-d'œuvre ne se produise pas cette fois-ci. Si de plus en plus d'entreprises deviennent autonomes grâce à la technologie, où iront travailler les humains? Autre rubrique, les métiers de l'avenir et ceux du passé. La bonne nouvelle. Si votre profession nécessite de l'empathie, de la créativité ou une prise de responsabilité, ce n'est pas demain la veille qu'un robot vous remplacera. Les enseignants, encore que je pense en psychologie maintenant, je pense qu'on a des robots qui peuvent répondre, oui, à des personnes qui sont désemparées.
Oui.
Les enseignants, les éducateurs à la petite enfance, les infirmières et les médecins, tout comme les coiffeurs et barbiers, risquent moins que d'autres de voir leur profession être automatisée. C'est ce qui ressort d'une recherche de l'Institut Brookfield, dont le siège est à Toronto, qui a analysé les tâches de près de 500 emplois au Canada. Comme beaucoup de ces domaines sont traditionnellement féminins, les femmes sont moins à risque d'être remplacées par des robots que les hommes. De façon plus générale, les travailleurs les plus scolarisés sont aussi à l'abri. Mauvaise nouvelle au sujet des métiers de l'avenir. D'ici 10 à 20 ans, 42 % des travailleurs du Québec seront fortement touchés par l'automatisation de leurs tâches, selon ce même Institut Brookfield. Les vendeurs du commerce de détail, les adjoints administratifs, les caissiers et les conducteurs de camions risquent davantage de voir leur métier disparaître. Aussitôt qu'il existe une certaine routine ou des tâches répétitives dans un métier, il devient potentiellement rentable de l'automatiser avec un logiciel ou un robot capable de travailler plus rapidement et sans interruption. Et ce sont souvent les personnes les moins scolarisées et les moins bien payées de la société qui occupent de tels postes. Mm-hmm. Alors, ça ne sera pas nécessairement toujours rose pour tout le monde.
Non, effectivement.
Autre rubrique, flexibilité et précarité. La bonne nouvelle, les employés qui rêvent de flexibilité des horaires et de travail à distance ont de bonnes chances de voir leurs souhaits se réaliser au cours des prochaines décennies. Les entreprises qui connaîtront le plus de succès seront en effet celles qui sauront améliorer la qualité de vie de leurs employés, avec notamment des compensations ou récompenses non financières. Celles aussi qui parviendront à créer une atmosphère de confiance, où les employés n'auront pas peur de prendre les risques et d'innover. La mauvaise nouvelle au sujet de la flexibilité et de la précarité, la concurrence entre travailleurs sera féroce dans les décennies à venir puisque les entreprises auront tendance à faire appel à de la main-d'œuvre à forfait pour des projets particuliers, selon Deloitte. Les travailleurs autonomes seront de plus en plus nombreux en compétition constante, notamment avec de la main-d'œuvre internationale. Les travailleurs devront suivre régulièrement des micro-formations pour rester à niveau et polyvalent. Aussi, les promotions ne consisteront plus à grimper dans un organigramme, mais à être courtisées pour des projets stratégiques. Selon un sondage, seulement 37 % des Canadiens croient que les structures hiérarchiques existeront encore dans l'avenir.
Mm-hmm.
Ça va être complètement à l'horizontale.
Exact.
Bon. Alors, dernier point pour les femmes. On dit qu'elles risquent moins de ne pas avoir d'emploi dans l'avenir. Mm-hmm. Mais ici, il y a un chiffre, je ne sais pas quelle est la source, le pharmacien ne l'a pas dit. L'équité salariale, c'est pour quand? Si le rythme actuel d'augmentation des salaires se maintient, les Québécoises rattraperont leurs collègues masculins aux alentours de 2060.
Ah oui.
Oh là là.
Eh, bon ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK, on s'en parlera la semaine prochaine, mais quand même. Merci pour ce côté positif, Roger.
Oui.
Alors, je veux vous remercier tous les deux. Merci beaucoup, Franceline. Merci, Roger. Merci à Jean-Sébastien de l'autre côté de la vitre, notre metteur en onde qui fait toujours ça d'une main de maître. Moi, je vous rappelle que cette émission est en rediffusion pendant la journée et cette émission se retrouve naturellement à tous les jours de la semaine. Donc, la même émission avec des collaborateurs différents. Et vous pouvez aller voir les informations sur le site internet canalm.vu avec un S et voix.com. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, surtout une excellente semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.
À la prochaine.
Absolument, à la prochaine.